Pau Gasol.
Il prend l'air. Oh! Get back, Pau Gasol, get back!
Il est brûlant. Il est chaud, brûlant.
Dites-lui, moi
je peux plus. Extraordinaire séquence.
C'est la route. Oh, c'est dingue. C'est dingue. Quel fin de match. Puis le mec.
Oh,
oh là 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 là.
À 3 points. Oui, monsieur. Oui, monsieur.
Bien, mon petit.
Un shoot extraordinaire! Au buzzer! Au buzzer! Quel shoot de mammouth!
Pour ce deuxième numéro, j'ai décidé de remonter aux origines de ma carrière. Mon invité est tout simplement la première personne qui m'a fait confiance, celle qui m'a donné ma première pige à la rédaction Omnisport de Canal. Il est surtout la voix du basket en France. J'ai l'immense honneur d'avoir à mon micro David Cosette. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, c'est Arnaud, bienvenue dans Les Passionneurs, le podcast des grandes voix du sport. Équilibriste de l'audiovisuel, conteur des temps modernes, passeur d'émotions, les commentateurs ont ce pouvoir de transformer un événement sportif en une épopée légendaire. Ayant la chance d'exercer ce métier passionnant depuis plus de 15 ans, je crois qu'il est temps pour moi de vous le faire découvrir et qu'il est surtout temps pour mes confrères de nous commenter leurs propres histoires. Ce deuxième numéro, j'ai décidé de remonter aux origines de ma carrière. Mon invité est tout simplement la première personne qui m'a fait confiance, celle qui m'a donné ma première pige à la rédaction Omnisport de Canal. Journaliste, rédacteur en chef, commentateur, présentateur, intervieweur hors pair et même gérant d'établissement hôtelier. Il est surtout la voix du basket en France. J'ai l'immense honneur d'avoir à mon micro David Cosette. Bonjour David.
Bonjour Arnaud.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va ?
Ça va très très bien, très très bien. J'ai recommencé à commenter du basket à plein temps et ça me rend heureux.
Et bien ça, on va reparler dans quelques instants. Comme je le disais en intro, tu as plusieurs casquettes, celle du basket évidemment. Mais avant d'en parler, on a tous envie de remonter un petit peu en arrière, donc plutôt à tes origines, à ton enfance. Donc on va revenir à Rouen et on voulait juste savoir quel genre d'enfant tu étais, quelle enfance as-tu eu ?
Je n'ai même pas souvenir marquant de mon enfance. Je pense que famille ordinaire, entre guillemets, scolarité ordinaire, même très ordinaire. Voilà, j'étais un enfant plutôt heureux qui manquait terriblement de confiance en lui. Voilà, et après, justement, de réussir à vivre de ma passion, c'est vraiment le côté professionnel qui m'a permis de prendre petit à petit confiance en moi. J'avais un vrai problème par rapport à ça, ce qui peut sembler un peu paradoxal, parce que quand on parle à l'antenne, qu'on parle face à la caméra, je crois qu'il y a beaucoup de comédiens et d'acteurs qui sont extrêmement timides dans la vie. Bah, je pense que c'est un peu le même schéma et que c'est vraiment ce métier qui m'a permis de prendre un tout petit peu confiance en moi pour survivre dans cette société, parce que sinon j'avais un vrai problème avec ça. Voilà. Mais sinon, sur l'enfance, non, rien de spécial. Scolarité jusqu'au bac. Et puis après, je suis parti un an aux États-Unis.
Ouais.
C'est mon père qui m'a suggéré ça et ça a été une formidable décision. Il a eu raison et ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de parler anglais, découvrir une autre culture où en plus là-bas, c'est très axé sur le sport. Donc, j'ai passé une année magnifique. Et puis après, l'école journalisme, etc. Quoi.
Mais justement, à quel moment est née la passion du basket ? Est-ce que tu as toujours voulu être journaliste ?
Alors, la passion du basket, j'ai lu parce que quand j'ai commencé à jouer dans la banlieue de Rouen, d'ailleurs dans le même club que Théo Malédon.
Théo Malédon, 3 points pour le Frenchman, I love it.
Qui joue en NBA à Ménilénard, une petite ville de banlieue de Rouen. J'ai commencé à jouer à 8 ans, donc voilà, j'ai toujours aimé jouer au basket, j'ai toujours été assez mauvais, je voulais faire le sport-études et j'ai très vite vu que je n'avais pas le niveau pour. Et après, je m'étais dit, je veux faire un métier en relation avec le sport. Et donc, j'avais en tête de faire soit journaliste sportif et si ça n'était pas possible, de faire prof de sport, tout simplement. Mais je n'avais pas conscience que c'était aussi prégnant. Pour la petite anecdote, il y a quelques années, avec les réseaux sociaux, copains d'avant, tout ça, je suis retombé sur une copine d'enfance avec qui je passais beaucoup de temps quand j'étais au lycée Corneille à Rouen. Elle ne savait pas ce que j'étais à Canal à l'époque, et donc elle ne suit pas le Sport, elle ne savait pas ce que je faisais. Elle dit, mais tu fais quoi? Je dis, bah, moi, je commente le basket à Canal Plus et tout. Elle dit, oh, mais c'est incroyable. Donc, moi, j'étais surpris qu'elle me dise ça comme ça. Elle dit, je dis, mais pourquoi? Elle dit, mais c'est incroyable. Tu n'arrêtais pas de nous saouler du matin au soir à dire, je veux être journaliste sportif. Et en fait, je n'avais pas du tout conscience que c'était ouais. aussi fort. Voilà, j'ai peu de souvenirs de mon enfance. Mais elle disait, mais si, c'était une obsession pour toi. Et je n'avais pas conscience que c'était à ce point ancré en moi, en fait.
Et c'est une obsession que t'as emmené aux États-Unis, parce que t'as essayé quand même de jouer au basket aux États-Unis.
Non, ça c'est plus pour les études et tout ouais. ça. Oui, non, là-bas aux États-Unis, j'ai vu, donc j'avais pas le niveau pour jouer dans l'équipe de high school où j'étais en dernière année. J'ai passé mon bac américain, mon graduation, et donc à défaut, j'ai joué au foot, au soccer là-bas, et je me suis régalé parce que je jouais aussi au foot en France. Et voilà, on a fait une super saison on est allé en demi-finale de l'État du Tennessee. Tout oui. ça. Et voilà, on jouait devant des stades pas pleins, mais pas loin. Enfin, c'était un truc assez incroyable. Et voilà, c'est une expérience fou. Mais j'ai joué au foot et plus qu'au basket là-bas. Quoi.
Et donc, retour en France. Et tu le disais, école de journalisme.
Ouais. Enfin, d'abord, un an de fac à Villetaneuse, fac de communication. Et il faut avoir bac plus 2 pour avoir le droit de passer les concours des écoles de journalisme. Et donc, j'ai demandé une dérogation, considérant que l'année aux États-Unis était une année post-bac. Oui. Et la dérogation a été accordée. Donc, j'ai pu passer le concours de l'IPJ, l'Institut pratique de journalisme, où, fait du hasard, il y a beaucoup de journalistes sportifs qui sont sortis de cette école-là. Donc, voilà, j'ai réussi le concours de l'IPJ. J'ai fait mes 2 ans à l'IPJ et j'en suis sorti à l'été 91.
Été 91 qui en plus est à la veille d'une création énorme, celle d'Eurosport France. Ouais. Et je crois qu'il y a un de tes professeurs qui t'avait un peu informé de cette création et ouais. dès 92
ouais,
Eurosport.
Oui, ouais, notre professeur de sport à l'IPJ, c'était Daniel Potra qui était l'un des cadres du service des sports de TF1.
Mulhouse et Sochaux, et à Monaco, Thierry, vous voyez qu'avec Jean-Claude Dacier, vous-même, nous tous, on avait bien fait de choisir ce match Monaco-Orléans.
Ah oui, tout à fait, Daniel Potra, on peut féliciter Jean-Claude Dacier qui avait le nez, parce que Jean-Michel Larquet et moi, on était plutôt pro Mulhouse-Sochaux, mais bien vu Jean-Claude, c'est ça, d'avoir du pif.
Et Eurosport au début n'existait qu'en langue anglaise, allemande et néerlandaise. Et TF1 qui avait racheté Eurosport, donc c'était dans les sous-sols de Cognac Jay, a lancé la version française le 1er janvier 92, à une époque où très peu de gens avaient le câble, encore moins de satellites et tout ça. Donc je ne sais pas combien il devait y avoir de gens qui regardaient Eurosport au tout début de la langue française. Mais en tout cas, nous, on était là. On a été avec Christophe Joss, on a été les deux premiers commentateurs recrutés. C'est marrant pour deux sports qu'on ne fait quasiment plus ni l'un ni l'autre, puisque il y avait un mois après les Jeux Olympiques d'Albertville, et Christophe a été lui recruté pour commenter le ski, parce qu'il faisait partie des équipes de France junior de ski, et moi pour commenter le hockey sur glace, parce que je commentais le hockey sur glace comme étant de Rouen, j'avais suivi le hockey très fort à Rouen, et je faisais ça pour France Bleu, les multiplex le week-end, alors que j'étais à l'école et tout ça. Voilà, donc je suis arrivé à Eurosport, et c'est fantastique d'être au début d'une aventure comme celle-là, création d'une chaîne, etc. Et en plus, quand on a 20 ans et quelques, on est toute une génération qui a plutôt bien réussi. On a grandi ensemble, et des gens qui ont fait des grandes carrières. Denis Brognard.
IPJ, Denis Brognard.
Oui, Denis aussi.
Fred Viard.
Frédéric Viard. Jean-Charles Sabatier. Donc Christophe. Il y a eu Cyril Linette. Il y a vraiment eu du monde. Philippe Groussard, Nicolas Souchon. Il y a vraiment eu beaucoup de journalistes qui, après, ont fait de belles carrières de journalistes sportifs. Et on était tous des jeunes gamins écervelés, mais passionnés.
Le PSG nul au cartonne, c'est la victoire de la jeunesse. Les Parisiens décidément surprennent, à Sceaux, c'est la belle histoire du promu. On a fait le ménage sur la côte et ça marche, Antibes revit. Limoges pour Orthez, c'est le choc de la décennie, duel musclé. Le CSP gagne tout dans l'Hexagone, coupe et championnat. Le match de l'année, Villeurbanne pour Orthez, dribble, passe et dunk.
Mais à la vingtaine, il y a Albertville, mais après, il y a Barcelone. Enfin, c'est...
Oui, juste l'été, Barcelone. Ouais, j'ai commenté les Jeux de Barcelone dans les sous-sols de Cognac Jay, sans me rendre compte, avec toute l'innocence j'avais 22 ans, ouais. Voilà, sans même me rendre compte de l'immensité du moment. Voilà, j'ai effectivement commenté les Jeux Olympiques de Barcelone avec la Dream Team.
C'était
et
la bonne
ça,
année
quoi. Ouais,
pour
ouais,
le faire.
Ouais, 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 exactement.
Scottie Pippen, Michael Jordan, Irwin Magic Johnson.
Campeón olímpico y medalla de oro. El equipo de los Estados Unidos de América.
Et après plusieurs années chez Eurosport, mais
et après, oui, après il y a eu une fusion avec TV Sport qui appartenait à Canal+, et donc c'est là qu'il y a eu Eurosport France, vraiment l'entité Eurosport France. Et TV Sport est arrivé avec le championnat de France, et j'ai commenté mon premier match de championnat de France en octobre 1993. Donc ça fait là tout juste un peu plus de 30 ans, quoi.
Fantastique, voilà, fantastique.
C'était à Levallois.
Et c'était à Levallois.
Ouais.
Et après, est arrivé Pathé Sport.
Et après Eurosport, ouais, ouais, ouais. J'y suis resté donc 7 ans, puisque en 99, Pathé Sport a récupéré les droits du championnat de France et m'a proposé, c'est Gilles Estet qui était l'un des journalistes, l'un des cadres de la rédaction d'Eurosport, qui a été débauché par le groupe AB, et c'est devenu à ce moment-là Pathé Sport. Et donc, il a pris la tête de cette chaîne et il m'a demandé de venir pour commenter le basket et en même temps pour être à la tête de la rédaction.
Voilà, c'est ça. Donc là, nouvelle casquette, rédacteur en chef.
Ouais, ouais.
Comment ça se passe, parce que
on n'y est pas. Enfin, j'y étais pas préparé, vraiment. Ouais. J'étais très focus sur mes matchs et tout ça, et je manquais de clairement, je peux le dire maintenant, je manquais d'épaisseur,
ouais.
je manquais d'un peu de tout, je pense, pour prendre la direction d'une rédaction. Je pense qu'il faut une forme de maturité, d'ouverture aux autres. C'est vraiment un rôle qui est pas évident. Et j'ai fait ça comme j'ai pu. Et en fait, je l'ai fait à Sport Plus dans le groupe Canal, mais
la gestion de l'humain n'était pas évidente.
Ouais, non, puis on peut pas. C'est compliqué d'à la fois être à l'antenne et ouais. En même temps gérer une rédaction.
Ouais.
Parce que quand on est à l'antenne, on pense quand même à son truc, à soi, alors que gérer une rédaction, c'est comme s'il y avait un coach qui joue en même temps. On voit ça en 3e, 4e division, ça peut arriver.
Ouais.
Quand on monte dans l'élite, peu importe le sport collectif, il n'y a jamais le coach qui joue au milieu des joueurs. Parce que ça complique beaucoup trop les choses. Bah, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, moi, à Canal, après, j'avais dit au patron, à Cyril Lénel, j'avais dit, mais s'il faut que je fasse que du management et ne plus commenter, si ça doit être ma voix, allons-y. Mais je me sentais moi-même, je me sentais mal à l'aise d'être à la fois le commentateur, être parti tout le temps, jongler entre deux avions et être là pour la rédac, pour gérer tout ça, où eux devaient se dire, bah, lui, de toute façon, il est barré et tout ça. Mmh. Voilà, et donc, au final, j'ai quand même fait les deux, mais c'est pas évident.
Surtout que, sans parler d'égo surdimensionné, mais quand même, c'est dans les rédactions, surtout pour certains sports, il faut les gérer aussi, ces égos. Puis il y a certains journalistes qui sont sur les mêmes sports. Et
oui,
ça aussi, ça
sûr.
Doit être difficile à gérer,
évidemment,
j'imagine.
Évidemment, oui, bien sûr. Ceux qui commentaient du basket, ça ne devait pas être facile pour eux, forcément, bien sûr. Le premier, à l'époque, c'était Nicolas Bayou, qui était numéro 2 du basket. Et comme quoi, dans la vie... Il y a toujours des what goes around comes around. Et il y a toujours des retours de balancier ou quoi que ce soit, sans que ce soit négatif.
Oui.
Mais là, ce qui est marrant, c'est que maintenant que je travaille pour Squeak, mon rédacteur en chef, c'est Nicolas Bayou.
Fantastique.
Voilà, exactement. Voilà, donc les rôles sont inversés et on a une conversation par rapport à ça très très sereine, très amicale. Ou voilà, en plus avec les années, la maturité, voilà, tout est plus facile. Mais lui, pour le coup, il a tellement de boulot qu'il peut pas commenter.
Ouais.
Donc voilà, il est juste et c'est vrai que c'est un fonctionnement entre guillemets plus cohérent, quoi. Voilà, c'est soit on gère toute la rédaction, soit on commente, mais ça, c'est compliqué de faire les deux quand même.
Mais à l'époque de Sport Plus, Canal Plus Sport, Canal, si on t'avait demandé de choisir entre commenter et gérer la rédac, t'aurais eu un choix logique ou...
Ouais, je crois que j'étais plus parti pour gérer la rédac.
Oui.
Ouais. Et je pense que j'aurais été bien meilleur dans cet exercice si je n'avais fait que ça.
Ouais. Parce que à quel moment tout ça s'est précipité Et finalement, Sport Plus, à un moment, a fermé. Et
Mais après, il n'y a plus cette question-là, parce que Sport Plus a fermé. Donc, de toute façon, finalement, ce n'était pas plus mal que j'ai quand même continué à commenter du basket, parce que derrière, il n'y avait plus de place de management. Il n'y avait plus ce pôle omnisport à Canal+. Et puis après, il n'y avait plus de basket non plus. Donc, voilà. Finalement, il n'y avait plus rien. Donc, c'est comme ça que, derrière, j'ai préféré me faire confiance et partir de Canal.
Sachant que tu aurais pu faire le choix d'y rester.
J'aurais pu rester et j'aurais pu peut-être réussir à trouver un peu une place un peu sympa ou quoi que ce soit. Mais je pense que dans un premier temps, on m'aurait dit, écoute, mets-toi là. J'aurais sûrement fait des tâches qui m'auraient pas éclaté. Quoi. Mmh. Et quand on fait un métier passion, il ne faut jamais faire ce métier-là juste pour avoir le chèque qui tombe à la fin du mois. Ouais. Sinon, ce n'est pas les bonnes raisons.
Ouais.
Et donc, je me dis, j'ai plus la rédaction en chef de la Reda Comnisport. J'ai plus de basket à commenter. Ils vont me trouver une place, je sais pas où, à faire un truc. Je sais que je me suis tellement éclaté avant, je sais que je serais malheureux,
ouais.
En gros. Et donc, j'ai préféré, alors qu'il y avait un plan de départ, j'ai préféré profiter du plan de départ en faisant confiance, en disant, il y aura bien quelqu'un qui
reprendra les droits.
Qui reprendra les droits, qui sera intéressé par mes services. Et puis, et voilà.
Et c'est arrivé finalement assez vite.
Ouais, pas. Ça a été compliqué quand même, parce que je ne savais rien. Et finalement, c'est ma chaîne sport qui a pris les droits. Et pour la question des gens avec qui je n'avais pas cliqué, je savais que je n'irais pas à ma chaîne sport. Mmh. Et donc, je suis parti à l'équipe. Fabrice Jouot, à l'époque, m'a appelé, parce que l'équipe avait récupéré quelques matchs. Et il m'avait dit, on trouvera aussi autre chose. Et j'ai pu faire des trucs formidables. J'ai bossé sur l'équipe du soir. J'ai même présenté l'équipe du soir quand Olivier Ménard était en congé. Enfin, voilà, des expériences géniales.
Rêve de gosse, un peu, de bosser l'équipe.
Complètement. Donc voilà. Et puis après, ils n'avaient plus de basket du tout. Donc là, à nouveau, pareil, faut être courageux et se dire, je préfère partir. Puisque je sais que même là, si j'ai plus de basket, je serais un peu malheureux. Donc, une deuxième fois, la même chose. Et c'est comme ça que j'ai pu arriver dans le giron d'RMC. À l'époque, c'était SFR Sport. Après, c'est devenu RMC Sport, etc. Et une deuxième fois. Et là aussi, une expérience géniale parce que...
Basket time.
Parce que j'ai pu faire de la radio. L'émission du lundi soir, ponctuellement, Pierre Dorian n'était pas dispo, j'ai pu la présenter. J'ai quand même pendant une heure présenté une émission sur RMC. C'est encore un exercice différent. Et c'est le trac qu'on n'a plus forcément quand on commande des milliers de matchs de basket. Au bout d'un moment, il faut être honnête, il n'y a plus de trac du tout. À nouveau, il y a une forme d'adrénaline, il y a une forme de trac. Et c'est quand même ce qu'on recherche, des émotions. Et même si ça n'a pas duré longtemps, même si j'en ai fait qu'un petit peu, c'est comme pour bosser sur l'équipe du soir, c'était des moments merveilleux. Et quand j'étais à l'équipe pour y revenir, j'ai aussi ponctuellement, ils ont fait appel à moi pour écrire dans le journal, où j'ai eu la chance de faire une chandelle, une sorte de petit édito que j'espérais le plus rigolo possible. et puis après, un compte-rendu de match de play-off de championnat de France, parce qu'il leur manquait du monde, ils ont dit, allez, on envoie David et tout. J'avais un stress monumental parce que... Écrire un papier en direct le soir, ouais, avec une heure de bouclage, moi j'ai un respect infini pour ceux qui font ça. Je trouve ça incroyablement dur, et quand je vois les papiers écrits de celui que je vénère par-dessus tout, Vincent Duluc, qui sont écrits au cordeau, avec un recul, alors que le gars il a juste 20 minutes pour écrire son truc, je trouve ça incroyable. Et quand je l'ai dit à mes copains du service basket de l'équipe et tout ça, ils disaient c'est arrivé à un ou deux journalistes du service, comme quoi faut tout relativiser. C'est arrivé une fois ou deux à des journalistes de la rubrique basket de l'équipe, Yann Onona ou Arnaud Lecomte, de commenter en consultant un match par exemple du championnat d'Espagne avec moi en cabine à l'équipe. Et moi, j'arrivais, je commentais ma championne d'Espagne sans manquer de respect ou quoi que ce soit. Je faisais le taf. Mais effectivement, j'arrivais complètement décontracté, avec les pieds sur la table. quand je m'ennuyais un peu, je checkais mon téléphone, machin. Et eux, ils étaient en train de transpirer à côté de moi en essayant de trouver la juste formule. Et donc, ils me disaient, mais David... pour nous, c'est naturel d'écrire des papiers sous tension avec le bouclage et tout ça.
Bien sûr.
Et pour toi, c'est naturel de commenter. Voilà. Mais donc j'y reviens, j'ai quand même un respect monumental pour les journalistes de presse écrite qui écrivent avec cette pression de l'heure du temps qui s'égrène et tout ça, etc. Et voilà, et au final de tout ça, c'est vrai que ça, c'est une fierté pour moi parce que
je crois.
Ça intéresse personne, mais juste pour moi, c'est vrai qu'à la fin de ma vie, de pouvoir me dire que j'ai fait de la télé au service des sports de Canal, j'ai fait de la radio au sport de RMC et j'ai fait de la presse écrite à l'équipe, j'ai quand même, voilà, j'aurais fait, même si ça a été que picoré pour certains, je trouve ça vraiment sympa d'avoir réussi à avoir vécu ces expériences, d'avoir fait sur trois supports différents dans les trois médias de référence. Quoi.
Exactement, tu as gardé les articles, j'imagine.
Oui, bien sûr. Oui, je les ai, ils doivent être bouffés par les mythes maintenant, mais j'ai gardé les magazines et les journaux.
Tu parlais d'émotions tout à l'heure, en termes d'émotions, quel média selon toi te permet de véhiculer le plus d'émotions, plutôt radio ou plutôt télé, commenter un match?
Je crois que chacun, selon son expérience, donnera son média. Moi, le média dans lequel je suis le plus à l'aise, c'est la télé, parce que j'arrive à jouer avec les codes de l'image, du son, de laisser l'image parler, de m'enflammer en m'appuyant sur l'image. J'imagine que si j'étais plus formé à la radio, je dirais c'est la radio parce que j'occupe tout l'espace et que justement les gens sont obligés de se raccrocher à moi parce qu'il n'y a pas l'image. Voilà.
Bien sûr.
Mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la télé quand même parce que justement les gens ont l'image et nous. Nous, on est l'accompagnement et une action ne sera pas vécue de la même façon selon le commentateur. Et c'est là qu'on apporte une plus-value. On est la chantilly au-dessus du gâteau, quoi, sur un beau match. On apporte ce petit truc en plus. Oui, pour passer l'émotion, un direct de sport à la télé, c'est formidable.
Mais bien sûr. Et tu parlais de Vincent Duluc qui, j'imagine, lui aussi a des petits automatismes en écrivant. Est-ce qu'à l'antenne, parce qu'on entend certains commentateurs qui croient presque que c'est écrit tellement ils ont des envolées lyriques parfois incroyables.
Un duel de titans, une domination au-delà de la raison, un dimanche pour l'éternité, une étoile de plus au firmament des bleus, la constellation des experts brille à jamais dans le ciel de Paris. Le monde se prosterne une fois encore devant l'exploit colossal des Français, gigantesque, fantastique.
Est-ce que pour toi tout est spontané ou quand tu sens un dénouement, il y a peut-être deux trois fois où
c'est obligé d'être spontané, c'est obligatoire. Sinon c'est pas vrai, sinon ça sonne pas juste. Et j'ai essayé quelques fois. Moi, je pense que si j'arrive un peu dans notre microcosme, hein, parce que moi, je fais pas un sport grand public, je n'ai jamais été sur des chaînes grand public, donc voilà, je suis pas Grégoire Margoton qui commente l'équipe de France de foot sur TF1, donc restons chacun à sa place, mais ça me va très bien d'ailleurs. Hein. Si j'ai pu toucher un peu les gens de mon microcosme, c'est parce que les gens, je pense, me sentent sincères. Et j'en entends, j'allais dire, pas tout le temps, heureusement, un petit peu quand même de temps en temps. On sent des envolées, on sent que c'est pas sincère. On sent quand le gars maîtrise pas vraiment son sport, que machin, il sait que là, il doit monter et tout, mais ça fait... C'est un vrai révélateur, la télé. Je pense que quelqu'un qui a l'habitude de suivre du sport à la télé, il va savoir si le mec, quand il commence à crier, il est vrai ou pas, s'il est sincère ou pas. Comme il va sentir si le journaliste et son consultant sont complice-complice ou juste on fait semblant d'être complice. Ça, quelque part, on ne peut pas mettre des mots là-dessus, mais ça, c'est quelque chose qui se ressent. Et donc, je pense qu'au fil des années, en plus, moi, je suis beaucoup dans l'émotion, mais je pense que ça passe. Parce que les gens savent que ce n'est pas fin. Et heureusement, parce que je sais parfois, maintenant à l'époque des réseaux sociaux, ça me fatigue quand je vois même notre chaîne qui prend l'extrait, c'est forcément un extrait spectaculaire.
Oui.
Donc il va le passer sur les réseaux sociaux, donc voilà, sur Twitter ou sur Instagram. Je passe mon temps à crier.
Oh là là! Quel dunk!
Et moi-même, ça me fatigue. Je dis, ouais, le mec, il hurle, machin. En plus, même parfois, quand ma voix, elle décroche, je ressemble à Gérard Jugnot qui s'énerve quand c'est dans les bronzés. Donc, voilà, c'est pas. Mais je pense justement que malgré ça, c'est sincère. Alors que si c'était pas sincère, ce serait juste insupportable. Dans un mec, c'est gosillé. Si on sent qu'il était... Alors que, voilà, je crois que c'est juste ce petit truc que j'ai réussi à construire avec les gens qui suivent le basket depuis quelques années. Quoi. Je pense que c'est vraiment au-delà. Quand, au bout d'un moment, tout le monde maîtrise son sujet, tout le monde a le même niveau d'information, je pense que c'est ça qui fera la différence au bout du bout.
C'est chaud, là c'est
et
chaud.
Le match, match. 10 après secondes. Les cadres rouge Joyce qui monte sur la pluie, le met.
Oh,
le shooter rouge Joyce à 3 points. Il le met. Oh là 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 là.
Et en parlant de sincérité, de complicité, ce qui peut faire la différence, et justement la complicité avec ton consultant, comment elle se construit, cette complicité?
Alors, justement, ça se construit. Je reviens sur ce qui est préparé ou pas, parce que c'est un peu la même chose. J'ai préparé une fois une entrée parce que c'était à l'Euro 2015, qu'on était sur Canal, que c'était, voilà, je savais que c'était un moment très fort, très important, une audience plus grosse que d'habitude. J'ai voulu écrire quelque chose, préparer quelque chose. J'avais beau l'avoir écrit comme il fallait, c'était nul. Parce que j'étais en train de lire. Ça marche pas. Heureusement, c'était que l'intro. C'était nul. Enfin, je trouvais ça... voilà. Donc, c'est la seule fois que je l'ai fait. Je dis, laisse tomber. Juste réfléchis à ce que tu veux dire. Et la sincérité sera toujours meilleure que la perfection. Même si il y a toutes les infos, machin, etc. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc ça doit... Donc, il n'y a rien qui est préparé quand on sort. Et parfois, on va passer à côté d'une action. On se dit, ah, j'aurais dû dire ça comme ça et tout ça. Tant pis, c'est pas grave. Il vaut mieux ça plutôt que de préparer des punchlines, dire, tiens, je vais sortir telle blague et tout. Ça marche pas. Voilà. Et c'est pareil sur la... Donc, pour y revenir, c'est pareil sur la construction d'un duo avec un consultant. On a beau dire, on est motivés tous les deux, machin, pour être bon. Gars, si le mec en face de toi, tu penses que c'est un connard, tu feras le métier. Tu feras le métier si t'es pro. Si lui, il est pro aussi, ça passera tout seul. Et ce sera un bon commentaire. Il y a aucun.
C'est arrivé déjà.
Oui. C'est déjà arrivé que je commente avec des gens que, en dehors de l'antenne, j'apprécie moyennement leur personnalité. Et attention, soyons tout à fait que eux aussi, ils doivent dire, Cosette, bon, je commente avec lui, mais c'est un connard. Mais je pense au moins que ces gens-là, ils se disent, bon, c'est un connard, bon, il sait quand même ce qu'il fait, il est pas trop mauvais, donc voilà. Et moi, si le consultant, il est bon et qu'il apporte machin, ben voilà, ça ira. Et ça sera propre et personne s'en rendra compte. Mais il manquera ce petit truc en plus. On en revient à côté, tout le monde a les mêmes infos, tout le monde machin, etc. Voilà. Il manquera ce petit supplément d'âme. Qui peut faire de. C'est pas une relation amoureuse, que c'est un grand mot, mais
c'est un couple.
Mais voilà, un couple, ouais, vraiment. C'est deux personnes qui se sont trouvées.
Est-ce que ça a été le cas avec Jacques Monclar,
par
exemple?
Oui, c'est celui auquel je pense en premier. Oui. Celui auquel je pense en premier, bien sûr. C'était pas mon papa parce qu'il était trop jeune, c'était vraiment mon grand frère. Parce qu'il a une douzaine d'années de plus que moi, donc c'était vraiment une sorte de grand frère. Lui, je crois qu'il avait beaucoup d'affection pour moi. Voilà, et moi je le kiffais parce qu'il me faisait rêver quand il était joueur, coach, machin, et qu'après on a développé une amitié avant de commenter ensemble.
Ouais.
Et donc après, quand on s'est retrouvé à commenter ensemble, c'était une évidence parce qu'on avait déjà construit cette. Après, on peut la construire pendant, hein, on peut découvrir quelqu'un
bien
et
sûr.
Tout ça, quoi. Et c'est la même chose, par exemple, avec Stephen Brun. On était à l'époque pas amis proches comme on l'est maintenant, mais on était déjà bien copains et, déjà avant. Et donc, c'est moi qui savais qu'il voulait faire ça. Et que, quand je lui ai dit, quand il joue à Nanterre, viens commenter des matchs en cabine à Paris, tout ça, etc. J'avais que ça en tête et lui aussi, il avait que ça en tête, quoi. Même si on ne se le disait pas. Peut-être lui, soit par pudeur, soit machin, tout ça, ou il voulait pas. Mais on était déjà copains, amis. Et après, quand on est à l'antenne, c'est comme si on attendait que ça, quoi.
Et justement, il y a le commentaire. Donc ça, nous, c'est ce qu'on voit téléspectateurs. Mais il y a l'avant et puis l'après, il y a la vie autour. Comment ça se passe, parce qu'on ne connaît pas, nous, les coulisses, mais j'imagine qu'il faut un moment sortir, peut-être boire un verre.
Oui, c'est là que si jamais vous ne cliquez pas avec votre consultant, si vous devez aller faire un déplacement à l'autre bout de l'Europe, il y a quand même un peu de temps de voyage. Il faut quand même déjeuner, dîner, prendre le petit déjeuner, je ne sais pas. Et donc, les gens qui ne s'aiment pas, ils s'évitent, c'est compliqué. Des gens avec qui on fait la conversation. Et c'est super. Mmh. Et des gens, moi, quand je retrouvais mon Clar dans le taxi au pied de chez lui, qu'on allait ensemble à Roissy, rien que de me mettre dans le taxi avec lui, je lui tapais sur la cuisse, j'étais content, quoi.
Ouais.
J'étais comme un gamin.
Bien sûr.
Et lui était content aussi, je pense.
Ouais.
On dit, Et puis, tout ce qu'il y a autour, on était heureux de partir ensemble, quoi, comme un couple d'amants qui vont partir en week-end.
C'est exactement ça.
Il y a un sauna dans l'hôtel. Ah, cool, on va se faire un petit sauna en arrivant. C'est une vie rêvée. Quand en plus vous êtes avec un ami proche, c'est une vie de rêve. On dit, puis après, où est-ce qu'on va aller boire un coup après? Si on arrive la veille du match en Euroleague, ok, d'accord. Puis le lendemain, on va visiter la ville. Mm. Puis après, on va aller commenter le match avec l'un de ses meilleurs potes.
Ouais.
C'est.
Il n'y a pas mieux.
Mais c'est. Je l'ai dit. C'est pas de la démagogie ou pas de la. Mais c'est une réalité.
Ouais.
Je me suis toujours toute ma vie senti incroyablement privilégié. On peut dire oui, c'est parce que tu sais. Oui, je pense que je sais bien faire ce que je fais. Je pense que je le fais correctement. Mais faut jamais oublier qu'on a une chance incroyable. Vous vous rendez compte ? On est payé pour aller se déplacer et aller voir des matchs au premier rang. Et en plus, si c'est avec votre meilleur pote, pour aller boire des coups et tout.
Mais ouais. c'est
un truc.
Ça n'arrive pas toujours.
Ça n'existe pas, quoi, normalement, dans la vraie vie.
Ouais,
je l'ai vu après quand j'ai racheté mon hôtel et que j'ai découvert ce que c'était que la vraie vie. Je peux vous dire que c'est pas la même chose.
Mais justement, le roi des transitions, j'allais en parler donc, du bord hôtel. Moi, littéralement, j'ai découvert ça sur M6 lors d'un reportage et je me suis demandé quelle était cette nouvelle aventure. Mm. Est-ce que justement, on peut en parler de l'hôtel Borges ? Donc, c'est
un arrêt complet. On vient de le revendre parce que comme je suis à nouveau à fond dans les commentaires de basket avec Squeak, quand il n'y avait que l'Euroleague, où en plus à Monaco, je pouvais faire l'aller-retour, c'était rapide et facile et c'est en semaine où il y a moins de monde. Là, on fait le championnat de France.
Oui.
Le championnat de France, ça commence début septembre, ça se termine à la fin du mois de juin. Il y a des play-offs au mois de mai et mois de juin. C'est déjà quasiment la haute saison à l'hôtel pour moi, qui est un hôtel restaurant au bord de mer. Et surtout, même toute l'année, je ne suis pas chez moi le week-end parce que je suis... à Cholet ou à Nancy ou je ne sais où. Donc au-delà du fait que ça fait quand même 3-4 matchs par semaine, je ne suis plus du tout sur place. Et quand c'est quand même une petite machine. Nous, l'été, on a 25 salariés. On avait 25 salariés, même hors saison. Si je ne suis pas là le week-end pour accueillir les clients, certains qui veulent me voir, et puis pour gérer les équipes, il y a toujours un problème et tout ça, etc. Si je ne suis plus là du tout...
C'est compliqué.
C'est impossible.
Ouais.
Je peux pas deux jours par semaine. C'est comme si c'était comme si je partais en week-end quand j'allais commenter l'Euroleague. J'ai droit à mes deux jours de repos. C'est ça. mais si c'est 4 ou 5, le rapport s'inverse et j'ai plus que 2 jours pour gérer l'hôtel, alors que c'est un truc qui demande un investissement au quotidien hallucinant, quoi. J'ai tenu en faisant l'Euroleague plus l'hôtel parce que je pense que je suis de nature passionné, je prends tout à cœur et voilà. Et donc je fais tout
les défis.
Mais là, ça n'a plus de sens et je risquais de faire mal les choses.
Donc, surtout que le gotha des médias et sportifs venait régulièrement à l'hôtel, gotha, donc vaut mieux être là.
Oui, bien sûr. Donc c'était une parenthèse, mais ça m'a permis de... Et c'est pour ça que là, quand je reviens à fond dans le commentaire basket, ça me donne une nouvelle fraîcheur et je me rends encore... C'était déjà mon sentiment sincère à l'époque de dire on a quand même une chance formidable de faire ce métier-là. Et là, je me rends encore plus compte parce que j'ai vécu ce que c'était que... Voilà, en plus, chef d'entreprise, je peux vous assurer qu'il y a...
Pendant
le Covid, au début, enfin... Voilà, et puis après, la gestion du personnel. C'est un milieu, la restauration, c'est un milieu qui est très dur. Où quand on est patron et qu'on n'est pas soi-même chef, on ne sait pas ce qui se passe dans la cuisine et tout ça, etc. Puis voilà, avec une population qui parfois est difficile. J'ai rencontré des gens formidables et moi, ma plus grande fierté, ça a été d'emmener avec moi sur ma passion et mon enthousiasme. Ils m'ont vu débarquer en disant c'est qui ce parisien qui vient de la télé, qui machin et tout ça. Et on a fait des choses formidables. Et quand les clients venaient, qui disaient on voit bien que que vous avez monté une équipe qui se bat pour vous et tout ça, et je crois que c'était ma plus grande fierté. Mais au quotidien, c'était vraiment épuisant. Et c'était bien que pendant 4 ans, même si j'ai au début notamment, le temps de tout intégrer, le temps de construire l'équipe. Après, quand l'équipe est construite, c'est un peu plus facile. J'ai beaucoup, beaucoup souffert au début. Mais je suis très heureux de l'avoir fait parce que j'ai vu ce que c'était, pour revenir au journalisme sportif et aux commentaires de sport, j'ai vu ce que c'était que la vraie vie, pas facile tous les jours, etc. À bosser très dur. Voilà, j'ai même fait un premier été un burn-out complet. J'ai complètement pété en l'air. À bosser 15-16 heures par jour, 7 jours sur 7, avec que des emmerdes du matin au soir. Et donc, au bout d'un moment, on devient fou, quoi.
Ouais.
Et voilà, donc là, je peux vous dire que quand je reviens maintenant sur le commentaire, je suis frais comme si j'avais 20 ans, parce que je sais à quel point c'est une chance. J'avais une conversation, je me souviens quand j'étais à Canal, parfois à Sport Plus, et j'entendais certains journalistes, pas tous heureusement, mais quelques-uns quand même parfois, qui me faisaient comprendre dans une relation de rédacteur en chef à journaliste, que les gars me faisaient clairement comprendre que Canal avait de la chance de les avoir.
Ouais.
Et là, parfois, je le regardais, je dis, mais c'est pas possible. Et le gars, il pense vraiment ça? Il pense vraiment ça? C'est pas possible de penser ça? Moi, j'ai toujours, toute ma vie, j'aurais pu jamais être à Canal. C'est incroyable, quoi. Moi, je viens de province, j'arrive à faire mon trou et je me retrouve dans le service des sports de Canal+. Mais on n'a pas le droit de dire ça. Même ceux qui sont quasiment les vedettes, c'est déjà un privilège. Alors, souvent, d'ailleurs, ceux qui sont un peu derrière et qui disent, tu te trompes complètement. Et c'est peut-être aussi pour ça que t'es pas... Faut toujours, et j'en parlais récemment, c'est marrant parce que je parlais de ça avec Julien Brun quand on s'est croisé à Bercy, qui commande donc le foot. Hein,
oui.
Et il vivait la même chose. Il disait, mais on a une chance incroyable. Et lui aussi, il avait entendu certains de nos collègues qui parfois disent, ils sont passés de l'autre côté de la barrière, quoi. Quand ils disent, quand même, ils ont de la chance de m'avoir parce que je fais bien mon taf et tout ça. Oui, bien sûr, c'est normal. C'est normal de bien faire son taf, mais c'est pas dur de bien faire son taf quand c'est un métier passion, quoi. Donc, faut toujours pas oublier que même si on fait bien notre truc, on a une chance incroyable.
Et d'ailleurs, métier passion, mais où il y a des remises en question permanentes, il faut se mettre à jour à chaque fois, il faut quand même travailler, pas rester que sur ses acquis, j'imagine.
Ouais.
Ça aussi, c'est un travail de tous les jours, lire, s'informer, choper des stats, parler à des coachs.
Mais moi, je ne le vois pas comme un métier. Puisque même quand je suis en vacances, je lis l'équipe tous les jours. Je vais aller sur les sites parce que c'est ma passion de basket. Donc je vais regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc je me nourris naturellement sans avoir l'impression de travailler. Après, si c'est juste de passer 2 heures avant chaque match pour bien se plonger dans les stats, enfin c'est tellement facile maintenant avec Internet. On va sur le site de la compétition, il y a tous les chiffres. Il suffit juste de gratter ses fiches. Faut pas être indécent, quoi. Faut pas dire parfois, pareil, j'ai des journalistes, j'ai pu entendre, oh là là, wow, j'ai bossé depuis deux jours sur le match et tout, j'en peux plus, les matchs qui s'enchaînent. Bah, sois sérieux, arrête un peu. Arrête. Moi, j'ai jamais eu l'impression de travailler, même en allant chercher les infos ou quoi que ce soit.
C'est du plaisir avant tout, la curiosité, l'essence d'un journaliste.
Voilà, vraiment. Vraiment, c'est... Et après, ça reste un métier qu'il faut faire sérieusement, évidemment. Qu'il faut avoir de la rigueur et tout ça, etc. Mais je sais pas, pour moi, c'est une telle évidence que je...
Pas pour tout le monde, visiblement, mais et le bord hôtel, si... Bon, là, j'imagine que ça fait un petit pincement au cœur quand même de se séparer de cet hôtel. Mais si c'était à refaire plus tard, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu pourrais te positionner à nouveau dans le futur?
Non, je ne le referai jamais. Je suis extrêmement heureux de l'avoir fait. Si j'avais su à quel point ça allait être aussi dur, Je pense qu'on n'y serait pas, on n'y serait pas allé avec ma femme. J'aurais pu tout perdre parce que si jamais financièrement ça avait été un échec, moi j'avais tout mis pour acheter l'hôtel, j'avais tout mis. Donc si jamais c'était un échec, je pouvais tout perdre, repartir à zéro à 50 balais.
Ouais.
J'imagine que c'est pas forcément évident. J'aurais pu perdre ma femme, travailler ensemble, tout ça, etc. Donc voilà. Donc et puis ça a été extrêmement difficile au début. Donc c'est une phrase de Mark Twain. Ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais c'est exactement ça. Je ne me rendais absolument pas compte. Je sais pas si on était extrêmement courageux ou complètement inconscient. Et c'est sûrement 50-50 sur les deux. C'est sûr que c'est ça. On peut le retourner dans tous les sens. C'est exactement ça. En sachant ce que tout ça, je l'aurais jamais fait. Mais maintenant d'avoir fait, d'avoir réussi, on a fait une belle opération. Parce que alors que c'était pas notre métier, on a donné de la valeur à cette affaire. Donc ça aussi c'est une fierté formidable. Et donc de faire une belle opération, on est maintenant très heureux.
Surtout que ça vous permet de quitter Paris et de rester ailleurs, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. On reste dans le. Oui, en fait, moi, cet épisode-là, au-delà du fait qu'il m'a rendu plus fort et plus riche de, je parle pas financièrement, mais plus riche d'expérience, de vie, de savoir ce qu'est vraiment la vie et tout ça, de pas vivre dans mon petit microcosme où on voit toujours que les mêmes personnes qui parlent des mêmes choses, etc., et de savoir que la vie est beaucoup plus vaste que ça. Je suis très heureux d'avoir fait ça. Oui, clairement. Et au final. Parce qu'au bout du bout, c'est quoi ? Au-delà d'une situation économique pour une famille, c'est que ça me donne une liberté. Et qu'au moins, je n'aurais pas fait tout ça pour rien, c'est que ça me donne une liberté. Et la liberté, ça n'a pas de prix. Voilà, je suis libre. C'est-à-dire que j'étais déjà heureux avant à commenter du basket, mais j'étais dans une structure avec une hiérarchie, tout ça, etc. C'est ce qui est normal, voilà, on rend des comptes. Et puis, on a les horaires un peu de boulot quand même, à la rédac, tout ça, etc. Là, maintenant, je suis libre. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir une super relation avec Squeak, avec les dirigeants de Squeak, qui aiment bien ce que je fais, qui me font confiance. Je pense qu'ils doivent estimer que j'apporte un petit peu de plus-value au produit. Et donc, c'est une relation équilibrée parce qu'ils sont contents. Et moi, je suis heureux parce que je suis complètement libre. Je fais juste ce que j'aime. Et là encore, c'est pas de la. Voilà, mais je
t'es à ta place.
J'ai conscience que c'est encore une chance formidable d'avoir cette liberté-là. Il y a certains matchs que je ne vais pas faire parce que c'est un peu loin, un peu compliqué, ou l'enchaînement. Hop, je vais dire, je fais juste ces matchs-là, je fais des gros matchs. Et je le fais que pour le plaisir.
Mais alors libre.
Que pour le plaisir. Mais avec une liberté incroyable.
Mais occupé pour les 7 prochaines années.
Normalement,
a priori.
Touchons le bois de cette table, mais on espère que ça va durer, parce qu'en plus, ce qu'ils font, c'est vraiment cohérent d'essayer d'avoir l'ensemble des compétitions sur un même support, alors que souvent elles sont éclatées et tout ça, pour un prix qui est vraiment modique. Donc ceux qui aiment le basket, après, ça devient une évidence. Et puis je crois que les premiers retours de l'année dernière et cette saison sont bons, parce qu'il y a tout. Il n'y a pas que moi, il y a toute une équipe, il y a un paquet de commentateurs, un paquet de consultants. Et quand ils sont maintenant, ça me fait tout drôle, parce que longtemps, j'ai été le plus jeune quand j'étais à Eurosport. Et très vite, on bascule, on devient le plus vieux, et on ne s'est pas rendu compte qu'on est passé de plus jeune à plus vieux. C'est terrible.
Ah, plus vieux, carrément.
Moi, je suis le plus vieux de l'équipe. Ouais, je suis plus vieux que les consultants, je suis plus vieux que. Ça me fait tout drôle de dire ça, alors que très longtemps, il y en a qui me disaient, oh là, qu'est-ce qu'il a l'air jeune, le commentateur. Mais bon, c'était il y a 30 ans, donc ça passe vite. Et donc, tous les jeunes, là. Qui commentent ou qui présentent les Nils Onimus, Max Leliard, Fred Mazéas, je me vois pour les plus jeunes d'entre eux en eux, parce que je sens cette passion et ça fait plaisir.
Et
en fait, même si on n'est pas de la même génération, il y a ça qui nous unit,
c'est qu'on
kiffe le même truc.
Ouais.
Et ça, c'est intergénérationnel. Même si on n'a pas le même âge, je sens cette passion et cette fraîcheur en eux, et je trouve ça génial. Et je m'en nourris.
Et vous échangez, j'imagine. Ils viennent te voir.
Bien sûr, bien sûr.
Tu leur donnes des conseils.
Non, je ne leur donne pas de conseils. Non, et ils m'en demandent pas. Et c'est très bien, et c'est très bien comme ça, parce que je pense qu'ils sont très très bons. Franchement, ils sont. On développe notre sur ce métier, donc de. On a besoin de personnes pour développer notre personnalité. Quand je rentends parfois sur les réseaux, il y en a qui s'amusent à mettre des commentaires de match. C'est marrant, il y a 30 ans et tout ça. La personnalité, elle s'affine, mais ça ne sert à rien qu'ils me demandent des conseils. Qu'est-ce que je vais leur dire? Les gars, ils font le taf. Enfin, ils connaissent le jeu, ils connaissent les codes du commentaire à l'antenne. Je ne pourrais que les polluer ou surtout, ils pourraient se dire « Ah tiens, je vais essayer de faire comme David Cosette, machin. » C'est ridicule. Parce qu'on en revient à la même chose. On est à l'antenne comme on est dans la vie. Georges Eddy, il est à l'antenne comme il est dans la vie. Jacques Monclar, il est à l'antenne comme il est dans la vie. Stephen Brun, pareil. Je pense que moi, c'est exactement la même chose.
Mais justement.
Donc chacun d'entre eux, je ne vais pas leur dire, il faut que ce soit plus ça comme ça, à partir du moment où ils savent commenter. Derrière, c'est le cuir du commentateur qui va s'épaissir petit à petit et qu'eux vont trouver leur signature. Et il n'y a pas besoin de demander à quelqu'un d'autre, parce que sinon ce ne sera pas la leur, ce sera celui qui aura conseillé. Donc il n'y a pas besoin de demander de conseil.
Mais justement, tu parles de Georges Eddy. Alors moi aussi, quand je suis arrivé à la rédaction sport de Canal et que j'ai vu Georges Eddy, forcément c'était une idole. Tu as été amené à commenter beaucoup de matchs. Je crois qu'entre Jacques Monclar et Georges Eddy, vous êtes les deux qui ont le plus commenté ensemble de basket.
Ouais.
C'était comment avec Georges Eddy?
Alors, on n'avait pas la même relation d'amitié profonde et surtout de complicité qu'il y avait avec Jacques, mais on est toujours très copains avec Georges, bien sûr, on est toujours très copains. Il y avait un vrai respect mutuel et on adorait aussi, même si on cherchait pas systématiquement d'aller au sauna dès qu'on arrivait à l'hôtel à l'étranger avec Georges, mais on avait plaisir à se retrouver et le midi du match, le déjeuner ou d'après le match, aller dîner ensemble et échanger. Donc là, et moi, surtout, alors moins après, mais je pense que c'est avec Georges que j'ai dû le plus commenter dans ma vie, hein, parce que c'est sur une plus longue durée qu'avec Jacques Monclar. Au début, en tout cas, c'était incroyable parce que et pareil, les gars qui étaient au lycée avec moi me le rappelaient, et ça pour le coup je m'en souviens, quand au fond du cours de philo, quand on s'emmerdait, je m'amusais à imiter Georges Eddy pour faire marrer les copains, je faisais oh là là, c'est formidable, et voilà, donc c'était vraiment, c'était un peu notre idole quelque part, et je me retrouve très très vite, parce que c'est seulement, on va dire quoi, après le lycée, le terminal, on va dire c'est 5 ans après quoi. Cinq ans après, je me retrouve, David, Éric Bénard, parce que Eurosport appartenait à Canal, donc Éric Bénard, il n'est pas dispo pour faire le match du mercredi matin, donc tu vas faire le match du mercredi matin avec Georges Eddy, la première fois, c'était à...
Dur
Non, pas dur, non, j'étais... J'étais tout d'un coup redevenu le petit garçon. Que j'étais il y a quelques années avant, quand je me dis waouh, je suis à côté de mon idole, et voilà, je me retrouve, donc on essaye de faire du mieux possible, etc. Et donc au début c'était j'étais forcément impressionné de commenter avec Georges, et puis après on a développé pareil notre complicité, où moi j'avais bien conscience qu'il fallait que mon boulot était de mettre en valeur Georges. Et Georges, je lui serais toujours reconnaissant. Il m'a laissé exister. Il aurait pu tout croquer et tout ça. Et comme on est un peu tous les deux sur les enflammades, on arrivait quand même à se partager intelligemment le truc. Et Georges aurait pu tout cannibaliser. Et il a dû se dire, tiens, avec David, quand même, ça marche bien. Donc, il faut quand même que je lui donne un petit peu aussi. Et on a trouvé comme ça notre équilibre. Et c'était tout est affaire d'équilibre de toute façon.
Bien évidemment.
Donc, on a pu avancer comme ça. Mais moi, de commenter avec Georges, c'était la première fois, c'était formidable.
Et en parlant de formidable, quel a été le consultant avec qui tu as vécu le plus de moments forts, intenses, à l'antenne?
Impossible de dire. J'en ai vécu avec Jacques. On a souvenir ensemble du championnat d'Europe 2001 qui était complètement fou, même si la France a terminé que 5e de mémoire. Ils sont passés un peu à côté. Mais l'ambiance, le délire qu'il y avait où la Turquie va jusqu'en finale et tout, on a vécu des moments incroyables. Avec Georges, on a le titre de champion d'Europe de l'équipe de France.
Oui.
Avec Georges, j'ai commenté, donc, même plus que la finale France-Lituanie, où on sait que la France va être championne d'Europe assez vite. Donc, voilà. Mais quand ils battent l'Espagne en demi-finale, après avoir été menés de 14 points, c'est avec Georges que je l'ai vécu. Un an plus tard, il y a la Coupe du Monde où je lance le donne-moi ton short, Thomas Hurtel. C'est avec Georges.
Oui.
Et pareil, là, quand, pour moi, c'est le plus grand souvenir de commentaires quasiment quand jamais la France doit gagner et qu'elle bat l'Espagne chez elle à la Coupe du Monde, machin. C'est avec Georges. Donc j'ai vécu aussi des moments immenses avec Georges.
Oh, c'est gonflé. Oh, oh maman, ce shoot de Thomas Hurtel à 3 points qui donne 8 points d'avance à l'équipe de France avec une minute à jouer.
Défendant.
Et le ballon, c'est raté, le shoot de Rubio. Et la faute sur Rudy Gobert. Oh, Thomas Hurtel, donne-moi ton short.
Rest count.
Et après, là, même avec Stephen, je commence en vif parce que comme on a la chance à nouveau d'avoir des clubs compétitifs en Euroleague et notamment Monaco, voilà, je vis aussi des moments très sympas avec Stephen. Mais les plus grands moments que j'ai vécu, c'est que je pense qu'en tout, c'est avec Georges parce que c'est avec Georges que j'ai commenté le plus grand nombre de matchs et le plus grand nombre de grandes échéances. Jacques, c'était sur une période un peu plus courte.
Bien évidemment.
Ouais.
Moi, je suis obligé de poser cette question, mais tu n'es pas obligé d'y répondre. Mais il y a eu des moments de solitude dans ta carrière de commentateur, et si oui, quel a été le plus grand moment de solitude ? S'il y en a eu, hein. Il n'y en a peut-être pas eu d'ailleurs.
Des moments de solitude. Oui, parfois quand j'étais à Eurosport ou même à Canal où je commentais d'autres sports pour soit pour remplacer ou pour faire la maille ou quoi que ce soit, et que j'étais pas forcément très à l'aise.
Oui.
Voilà, j'ai commenté du patinage artistique, de l'équitation, du karting, du hockey sur gazon, dans le fil d'une carrière, alors depuis pas mal d'années plus du tout, mais voilà, il y a eu des. Et puis après, des trucs qui, sur le moment, c'est des moments de solitude, mais alors c'est pareil, c'était à l'époque d'Eurosport où je pense qu'il y avait. J'allais dire, il n'y a que ma mère qui regardait, même pas, parce qu'elle n'avait pas Eurosport, donc je ne sais pas combien de personnes regardaient, mais j'ai pu faire dans les années 90, alors que j'étais tout jeune, des matchs quand il n'y avait pas Internet et que j'ai commenté la Coupe Spengler à Davos et du hockey sur glace à chaque fois à Noël avec des grands pays qui jouaient comme ça un tournoi. Et quand vous avez à l'époque, c'était URSS Tchécoslovaquie ou peut-être République Tchèque s'ils étaient déjà séparés, mais vers 92-93. Et que vous n'avez pas Internet et qu'il y a 20 joueurs de hockey de chaque côté, casqués, avec un numéro, mais pas avec le nom. Et que le match commence et que vous ne savez pas qui est qui parce que c'est des rouges contre des blancs, donc des tchèques contre des russes. Et donc le match commence et débrouillez-vous avec ça et allez-y commenter le match où vous ne savez pas devant vos yeux qui est la Russie.
C'est terrible. Après ça, on peut tout commenter.
Après, je ne sais plus à partir de quel moment j'avais réussi à deviner quel. Et j'avais quand même des noms qui correspondaient aux numéros sur mes fiches que j'avais envoyé par l'organisateur du tournoi, mais c'était pas sur les maillots, et donc c'est en voyant les numéros que j'avais pu deviner que machin, et voilà. Donc ça fait un petit moment de solitude quand on commande ça. Et puis une autre fois, un match d'Euroleague de basket, pareil, début des années 90 en Italie, où c'était ce qu'on appelle un beauty shot, la caméra plan large tout en haut de la salle pour montrer toute la salle, et on voit le parquet en plein milieu, mais tout petit, quoi, parce que c'est vraiment pour montrer toute l'immensité de la salle. C'était, je sais plus où c'était, peut-être à Pesaro, en tout cas une grande salle. Et j'ai commenté toute la première mi-temps avec cette caméra parce qu'on a appris qu'après que les Italiens ne prenaient l'antenne qu'en deuxième mi-temps et que donc ils n'ont pas réalisé la première mi-temps. Et donc j'ai commenté toute la première mi-temps en voyant des petites fourmis qui s'agitaient sur le parquet comme ça.
Mais c'est terrible.
Voilà. C'est rigolo. Ça fait un moment de solitude sur le moment. Puis après, ça fait marrer.
C'est formateur.
Oui, bien sûr. Ouais.
Justement, en parlant de formation, avant de passer à la dernière séquence de cet épisode, quel conseil donnerais-tu aux futurs journalistes sportifs, ceux qui sont en école, qui t'écoutent et qui ont envie de faire comme toi ?
J'allais dire d'être eux-mêmes, puisque moi, c'est en étant moi-même que de ne pas essayer de jouer un rôle. Voilà, de pas essayer de se dire « Ah, je passe... » Il y en a, parfois, on sent que c'est pour passer à la télé, quoi. Soyez passionné et ça suivra. Ça fait... Mais c'est un peu comme quand, je me souviens, Tony Parker, il disait des jeunes parfois qui lui disaient comment on fait pour aller en NBA, combien on gagne, machin. Enfin, on sent que ce n'est pas les bonnes raisons.
Ouais.
Soyez amoureux du jeu et vous deviendrez un bon joueur. On a vu rarement des très très grands joueurs qui s'en foutaient de leur sport, quoi.
Bien sûr.
Et nous, c'est un peu la même chose. Si on se dit je veux faire ça parce que je veux passer à la télé ou parce que machin, etc. Déjà, faut que tu aimes vraiment ce que tu fais. Mmh. Et c'est parce que tu aimeras ce que tu fais que tu arriveras à transmettre aux gens qui regardent et qui écoutent. C'est juste ça. C'est juste ça.
Les passionnés dans les passionneurs. Mmh. Ça se rejoint. Mmh. Donc, on arrive à la dernière séquence, la fameuse Fast and Curious. En gros, il faut que tu répondes spontanément. Tu as 60 secondes, je te pose des questions et d'accord. Tu réponds spontanément.
Okay. Je ne suis pas bon à ce jeu-là, mais allons-y.
C'est pas trop méchant. Quel est ton premier geste le matin ?
Mon premier geste le matin... Je regarde l'heure qu'il est, tout simplement.
si tu étais une qualité ?
La passion.
Un défaut ?
Un défaut, l'anxiété.
Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois ?
Quand est-ce que j'ai pleuré ? Ça devient intime. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait regarder le Cercle des Poètes Disparus à ma fille,
wow.
Qui devait le regarder pour son école. Et je dis, on le regarde ensemble. Et ça rate jamais, je peux regarder 10 fois la scène finale des lycéens qui montent sur les tables, je chiale.
Ouais, pareil. Ton dernier fou rire ?
Mon dernier fou rire... avec Stephen Brun à l'antenne où ce con il commence à partir et donc il me le transmet et on a eu un moment de très compliqué parce qu'on était à l'antenne et on n'arrivait plus à s'arrêter.
Tu regardes quoi à la télé quand tu fais une insomnie ?
Je regarde quoi à la télé ? Je regarde des séries. Voilà.
Je regarde un épisode
de série, généralement une petite série d'une heure et après on s'endort.
Et bah c'est justement ce que j'allais te demander après. Quelle est la dernière série que tu as regardée ?
La dernière, c'est je l'avais jamais vu, c'est Scandale. Donc ça fait quand même quelques années, et comme tout le monde me disait que c'était formidable, donc là je suis un peu old school. Je fais tout en décalé, moi. Je suis très musique des années 80 et sur les séries, je regarde des séries d'il y a 10 ans, mais voilà.
Tout pareil. Le dernier podcast que tu as écouté, si tu en écoutes ?
Non, j'en écoute rarement. J'écoute les podcasts RMC pour écouter les émissions de mon gars sûr Stephen quand il faisait Basket Time, quand ouais. ou maintenant qu'il fait son émission, comme je suis sur autre chose. Le soir, parfois, ça m'arrive.
T'es plutôt selfie ou photo de groupe avec un retardateur ?
Selfie, j'aime bien.
Instagram ou Twitter ?
Je suis plus Twitter.
YouTube ou TikTok ?
On est loin là. YouTube plutôt pour voir des vieilles vidéos vintage.
Bien sûr. Roman ou BD ?
Roman.
Musée ou expo ?
Musée.
Paris ou hier ?
Bah hier je kiffe maintenant.
Mer ou montagne ?
Mer bien sûr.
Course à pied ou course au marché ?
Course à pied, je cours 2 fois par semaine pour essayer de rester jeune le plus longtemps possible.
Beatles ou Rolling Stones ?
Les Beatles.
NTM ou IAM ?
NTM, j'écoute, c'est Stephen qui m'a... Ouais, NTM.
Juliette Armanet ou Clara Luciani ?
Juliette Armanet, j'écoute beaucoup.
Picasso ou Van Gogh ?
Van Gogh.
Warhol ou Basquiat ?
Je connais pas assez les deux. Enfin, je dirais Warhol qui m'a plus marqué que Jean-Michel Basquiat.
Foot ou rugby ?
Foot ou rugby ? Je je dirais foot sur ma culture parce que j'ai commenté du foot quand même pas mal. J'ai fait jour de foot à Canal. Enfin, j'en ai fait un peu. Mais maintenant que j'habite à hier, je suis obligé de dire rugby parce que le RCT. Voilà. Et les joueurs venaient à mon hôtel, tout ça. J'ai pu sympathiser avec quelques-uns d'entre eux. Le directeur du club, c'est un ami. Voilà. Et puis parce que quand on habite Toulon. Le RCT, c'est une institution. Donc maintenant, je commence à être pas mal rugby.
C'est bien ça. Basket ou hockey ?
Basket, forcément, parce que c'est ce qui a fait ma carrière. Mais j'ai une affection infinie pour le hockey, qui malheureusement a ce problème d'être moins télégénique que le basket ou le foot, mais qui est un sport absolument formidable. Et c'est un milieu formidable, et les hockeyeurs sont, c'est l'un des, je crois, le seul milieu où je n'ai jamais vu le moins de connards. C'est que des mecs hyper bonnards, moi, dès que j'étais dans le hockey sur glace. Je kiffe les hockeyeurs, j'adore ces mecs-là qui sont d'une simplicité absolue, du romal. Voilà, j'adore les hockeyeurs.
Et ma dernière spéciale, forcément, LNB ou NBA ?
même pas besoin de répondre à ça.
Je le savais.
Voilà, la LNB, bien sûr.
Évidemment. Donc il y a un petit Fast and Famous. En gros, je te donne des noms sportifs et tu me dis celui que tu préfères, très simplement, très rapidement, et après.
D'accord.
Ce sera terminé. Kylian Hayes ou Kylian Mbappé ?
Kylian Mbappé.
Tony Parker ou Tony Estanguet ?
Tony Parker.
Antoine Rigaudot ou Antoine Griezmann ?
Oh là, c'est dur. c'est dur parce que Antoine Rigaudot, quand même, quoi. Respect, le plus grand joueur français de l'histoire avant Tony Parker. Et Antoine Griezmann, que j'adore, parce que j'adore ce qu'il dégage. Et milieu du foot, je détesterais bosser dedans parce que pas pouvoir parler aux joueurs, passer par 18 agents, que jamais on vous rappelle, vous êtes considéré comme de la merde. Enfin, c'est juste l'antithèse de ma vision du journalisme. Mais le côté... je trouve qu'il a un côté hyper rafraîchissant, Antoine Griezmann, et au-delà de ce qu'il apporte sur le terrain. Et j'avais croisé à la Coupe du Monde 2014, alors qu'il n'était pas encore le grand Antoine Griezmann, machin, etc. Et en plus, c'est un grand amateur de basket.
En plus.
Ouais.
Vincent Poirier ou Vincent Louis ?
Vincent Poirier, Vince, en plus, il est venu chez moi à l'hôtel. Il est. Non, tu sais, oui. C'est un gars sûr.
Nicolas Batum ou Nicolas Karabatic ?
Nico Batum, bien sûr, on a vécu plein de choses ensemble.
Victor Wembanyama ou Victor Osimhen ?
Victor Wembanyama, étant commentateur de basket, je ne vais pas jouer l'attaquant de Naples alors que Victor Wembanyama va peut-être nous faire gagner les JO, on ne sait pas.
Évidemment. Ervin Johnson ou Ervin Ngapet ?
J'adore Ervin Ngapet, mais Magic Johnson, c'est juste... c'est juste la légende absolue, quoi. Ouais. Le smile, le jeu et tout, c'est quand même, quoi.
Quand même.
Ouais.
Boris Diaw, Boris Becker ?
Je vais dire Boris Becker. Boris Diaw, j'aime pas trop ce mec-là. c'est le mec le plus bonnard qui existe. Il n'y a pas match. C'est Bobo Forever.
Évidemment. Nando De Colo ou Nando Eggenberger ? Qui est un hockeyeur suisse.
D'accord. Nando De Colo, oui, puisque je suis président à vie du fan club Nando De Colo.
Forcément. Thomas Hertel ou Thomas Ramos ?
Thomas Hertel, puisque lui aussi, j'ai une relation un peu spéciale avec lui, forcément.
Forcément. Bon, là, pour les GOAT, il n'y a pas de correspondance de prénom. Donc, Nadal ou Federer ?
Federer, l'élégance, tout ça. J'aurais bien aimé dire Nadal, juste parce que Federer, c'est l'idole absolue de Stephen Brun, comme ça, juste pour le taquiner. Mais non, je suis obligé quand même de dire Roger Federer. Ouais. Pour ce qu'il dégage, pareil que Jordan à l'époque, quoi. C'est cette forme de facilité et d'élégance. Et ce que le sport traduit, voilà. Il y a aussi... c'est ce qui fait le mythe, en fait. C'est, on en revient aux commentateurs, ceux qui vont avoir le petit truc en plus, eux, ils ont ce petit truc en plus de ce qu'ils dégagent. Et c'est difficile de le qualifier, mais on sait qu'il dégage quelque chose de plus, quoi. Même si c'est pas lui qui aura gagné le plus de grands chelems.
Ça m'amène à la dernière question. Zidane ou Jordan ?
Jordan, parce que j'ai fait partie de cette génération qui s'est levée au tout début des années 90 à 3h du matin pour regarder les matchs des finales. Et je crois qu'une grande partie de ma vie est partie de là, quand j'écoutais Georges et que je me disais, oh, ce serait dingue si un jour j'étais à côté de lui.
Avant de se quitter, de se dire au revoir, j'ai deux petites questions que j'aime bien poser. Tu faisais quoi juste avant de venir ?
Juste avant de venir, je visitais un appartement pour pouvoir revenir un peu habiter ici à Paris. Maintenant que mon activité X-Quick me fait commenter beaucoup de matchs ici, donc je vais continuer à habiter dans le sud, mais je suis en train de chercher un appartement pour éviter d'habiter tout le temps à l'hôtel quand je viens à Paris.
Avis aux agents IMO qui écouteront peut-être ce podcast. Et tu vas faire quoi juste après ?
Je vais commenter un petit Real Madrid-Villeurbanne avec Stephen Brun dans les locaux de la chaîne L'Équipe. Ça passera sur Squeak et sur la chaîne L'Équipe également. Et j'avoue que je suis un peu inquiet parce que le Real est parti pour faire la plus grande saison de l'histoire de l'Euroleague, n'a jamais perdu à la maison. Et l'ASVEL est dernier et en plus avec des blessés. Donc la soirée peut être un peu longue.
Merci en tout cas d'avoir accepté de commenter les différents matchs de ta vie. On te retrouve donc sur Squeak TV. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Passionneurs. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, dans la vie comme sur les terrains, soyez sport. Merci à tous. Merci David.
Merci Arnaud.